Père Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, le 30 janvier 87, Rimont.
Dans Saint Jean au chapitre 10, pour réfléchir sur le mystère du sacerdoce de Jésus, à travers l'enseignement que Jésus nous donne, dont Jésus ici affirme ce qu'il est. Je dis pas le retour. Les actions du Christ, son enseignement et l'affirmation « Je suis ». C'est toujours intéressant de remarquer ce retour où « Je suis ». Et alors, dans ce « Je suis », nous avions insisté beaucoup la dernière fois sur cette affirmation nouvelle. Première. Vous voyez, ordinairement, on la télescope parce qu'on met allégorie du bon pasteur. Et donc, je suis la porte tombe devant je suis le bon pasteur. C'est très important, cette petite remarque. Parce que si on est attentif à cette affirmation, on voit que Jésus met en pleine lumière ce que dans l'évangile de Saint Jean nous voyons, le primat du mystère de l'agneau. Jésus, dans la lumière de sagesse, est plus profondément, comprenez bien, il ne faut pas opposer, il faut distinguer, est plus profondément agneau. Puisque c'est en étant agneau, pain et porte qu'il glorifie le Père. J'allais dire, c'est l'aspect de la finalité. Je crois que nous pouvons dire ça. C'est l'aspect de la finalité. C'est du reste assez normal que ce soit la finalité que la plupart du temps on télescope. L'aspect efficience. Et c'est bien cette finalité, je suis la porte. Il est venu pour cela. Alors, c'est difficile pour nous de comprendre tout ce qu'il y a dans cette affirmation symbolique. C'est une affirmation symbolique. Le sens littéral de cette affirmation, je suis la porte. Si vous prenez le sens littéral historique, ça ne marche plus du tout. C'est un sens littéral symbolique et donc totalement spirituel. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'enseignement de Jésus. Vous voyez, ce qu'on disait dans l'évangile ce matin, Marc dit simplement, il parlait en parabole, et il expliquait aux disciples. Je crois que Saint Jean, il explique aux disciples. À la différence de Matthieu et Marc, on sent très bien que l'évangile de Saint Jean, c'est de nous livrer ce que Jésus disait à ses disciples. Donc le sens profond. Et le sens profond, c'est bien ce sens spirituel et mystique. Reste un sens littéral. Autrement, vous matérialisez tout l'enseignement du Christ et toute la révélation. Alors, nous reprenons avec le souci de découvrir ce qu'est la est un voleur et un brigand. Tous ceux qui ne passent pas par la porte sont des voleurs et des brigands. C'est extraordinairement fort. De discerner ceux qui sont vraiment les brebis et de ceux qui sont les voleurs et les brigands. Si vous télescopez le mystère de Jésus comme porte, vous êtes voleurs et brigands. Voyez, plus le symbolisme est grossier, plus l'exigence va loin. Un brigand ne passe pas par la porte, sauf quand on laisse les portes ouvertes, mais normalement il ne passe pas par la porte. Et même quand les portes sont ouvertes, il ne passe pas par la porte parce qu'il croit que c'est encore un piège. Donc il escalade. C'est toujours le propre du voleur et du brigand. Il escalade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous voyez, dans le symbolisme, Jésus explique, non. Il ne nous dit pas. Il nous laisse à comprendre. Celui au contraire qui entre la porte et un berger des brebis. Alors, il y a le berger et les brebis qui passent par la porte, c'est bien évident. Les brebis ne l'escaladent pas. Mais celui qui suit le bon pasteur, celui qui suit Jésus, sont les brebis. Et comme le berger passe par la porte, nécessairement les brebis passent par la porte. Le propre de la brebis, c'est de passer par la porte. C'est à lui que le portier ouvre. Alors le portier ici, si Jésus est la porte, le portier, ça ne peut être que le Père. Ça, je crois. Jésus n'explique pas, hein. Il nous laisse le soin de comprendre. Alors ne poussons pas jusqu'au bout, mais c'est quand même intéressant. Vous voyez, comme le Père va apparaître, et la victime, on ne peut la connaître que par l'amour. parle pas, il obéit. Or, l'obéissance se fait dans le silence. Oui, il y a donc, au-delà de la parole, le mystère du silence et de la présence. Ce qui est, je crois, présent ici, je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc, on retrouve les voleurs et les brigands. C'est ceux qui ne sont pas à la porte. C'est ceux qui ne sont pas passés par la porte. Alors, vous allez me dire, tous les prophètes sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi. Ah non. Ceux qui ont prétendu être la porte. C'est tous ceux qui ont prétendu être la porte, c'est-à-dire être sauveurs. Tous ceux qui prétendent être sauveurs sont des voleurs et des brigands. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est sauveur. C'est Jésus. Et c'est lui seul qui est porte comme sauveur. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous voyez bien que le rôle de la porte, c'est le sauveur. Il sera sauvé, il ira et viendra, il trouvera pâture. La porte donne le salut. C'est Jésus en tant que porte qui donne le salut. J'explique ce qui est dit directement. Puisque c'est Jésus qui le dit. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, si vous considérez Jésus comme la porte, il est sauvé, c'est-à-dire que c'est Jésus comme sauveur qui est porte. C'est bien évident, parce que si vous restez sur le point de vue de la porte historique, ça ne va plus du tout. Tandis que si vous comprenez la porte d'une façon symbolique, c'est Jésus sauveur. Et il sauve de cette manière, il ira, il viendra, il trouvera pas Dieu. Être sauvé par le Christ, c'est découvrir la liberté intérieure. Il ira et viendra. La liberté de ceux qui sont sous la mouvance de l'Esprit Saint. Être sauvé par le Christ, c'est d'avoir cette liberté. On est une nouvelle créature. On est parfaitement libre. Et il trouvera pas dur. Donc il sera une brebis grasse. Avoir cette paix, de pouvoir avoir la nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Donc, je crois que c'est net. Le mystère du sauveur, le mystère de la porte, c'est Jésus sauveur. C'est Jésus qui donne la vie et une vie en pleine liberté et une vie qui permet d'avoir la surabondance, il ne trouvera pas dur. Et il y a l'opposition pour tous ceux qui ne sont pas des sauveurs et qui prétendent être des sauveurs. Alors ceux-là, au contraire, sont des brigands. Alors ensuite, je suis le berger. Alors réfléchissons encore un instant. Pourquoi entre sauveur et porte. Je découvre la signification profonde de la porte. Mais comment comprendre ce symbolisme de la porte et du sauveur? Bon, le symbolisme du pain, facile à comprendre, c'est la nourriture. Le symbolisme de l'agneau, facile à comprendre. Puisqu'il y a tout l'Ancien Testament qui montre que l'agneau, c'est l'agneau pascal. C'est celui qu'on offre pour glorifier Dieu et apaiser par rapport au péché. C'est l'agneau qu'on immole pour pacifier. Sacrifice de paix, pacifique, de réparation. Le serviteur, on comprend très bien. Mais la porte, vous êtes très gêné parce que vous n'avez qu'un avant l'évangile de Saint Jean, je peux me servir de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il est constamment parlé de portes. C'est très curieux, du reste. Une porte dans le ciel s'ouvre. Et c'est peut-être ce qui nous permet de saisir. Parce que c'est constamment ça. Comme l'Eucharistie, comme le pain, l'Eucharistie est viatique. En tant que viatique, il est porte. Et donc, le symbolisme de la porte va être relié au pain dans l'action ultime du pain divin de l'Eucharistie, d'être viatique. Le passage d'un domaine à un autre domaine, le passage de la terre au ciel, c'est ça qui nous est montré dans le fait que Jésus est sauveur et qu'il est porte. Il est celui qui fait le passage de la terre au ciel. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que nous avons moins directement l'expérience de la porte, parce qu'on n'est pas encore passé de l'autre côté. Au moment de la mort, je crois qu'on découvrira très bien comment Jésus est porte. Ce ne sera pas trop tard. Ce sera le moment d'une expérience extraordinaire. C'est-à-dire, mais c'est vrai, c'est lui qui fait le passage de cette terre à l'autre. Quand saint Thomas nous dit qu'il y a une grâce ultime, dernière, qu'on ne peut pas mériter, et qui nous est donnée gratuitement, la grâce de la persévérance finale, c'est-à-dire la fidélité jusqu'au bout. Et saint Thomas souligne en tant que théologien que cette grâce est une grâce de pure gratuité. Nous la recevrons tous, j'espère bien. On s'y prépare, hein, on s'y dispose, mais on ne peut pas dire qu'on la mérite. Vous ne mériterez jamais votre sainteté. C'est très heureux, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre l'auréole sur la terre. Oh, il est déjà saint. Bah, pas du tout, il n'y est pas du tout. Il y a la grâce de persévérance finale qui seule fait de nous des saints. Tant qu'on est sur la terre, on est dans la grisaille de la terre. C'est bien évident. On est des brebis qui sont déjà sanctifiées, c'est sûr, qui ont déjà passé par la porte, mais qui n'ont pas l'expérience plénière de la porte. Je crois qu'on peut dire ça, vous voyez, si j'essaie de creuser un tout petit peu pour comprendre le sens profond de ce que c'est cette affirmation Jésus disant « Je suis la porte » et pourquoi, de fait, j'aimerais beaucoup, si vous avez des textes des pères de l'Église là-dessus, je n'ai pas regardé saint Augustin, j'ai pas eu le temps de regarder saint Augustin, ce qu'il disait sur « Je suis la porte », ce sera intéressant dans son évangile. Pour moi, si j'éclaire le mystère de la porte par le pain viatique, par l'Eucharistie viatique, comme ça vient après, je crois qu'on peut dire que c'est la grâce de la persévérance finale. Donc, je suis la porte, c'est quelque chose d'ultime. C'est Jésus qui se porte garant de nous en face du Père, en face de la justice du Père. C'est Jésus qui nous revêt de son sang, de son sacrifice d'amour, de la croix, pour que nous puissions passer. Nous sommes tous, pour employer le langage des pères de l'Église, nous sommes tous des Ésaü. Il faut passer pour être Jacob. Voyez ? Alors, il faut avoir une tunique nouvelle. Et la tunique nouvelle, c'est celle du Christ. C'est très curieux, parce que dans l'Ancien Testament, tout est inversé. Hein, c'est l'imparfait, le parfait. passe avec la tunique d'Ésaü. C'est pas la tunique d'Ésaü, c'est la tunique du Christ. On est revêtu de la tunique du Christ. C'est ça la porte. Je crois que c'est ça le symbolisme de la porte. Alors c'est très grand. Je suis la porte. Pour le Père, nous serons tous brebis du Christ. Parce que revêtus du sang du Christ. C'est dit dans l'Apocalypse. Vous savez bien. Tous ceux qui ont la tunique blanche, qui sont revêtus du sang de Jésus. Et ce sont tous ceux-là qui sont vierges, donc fidèles jusqu'au bout, puisque la virginité, c'est justement être fidèle jusqu'au bout. C'est-à-dire de ne pas avoir pactisé avec le mâle. Ici sur la terre, on a tous pactisé. Mais la grâce finale, c'est justement d'être revêtu de Jésus. Je crois que c'est cela le symbolisme de la porte. Je dis je crois. Parce que, alors, si vous prenez ça, vous comprenez tout de suite. Ceux qui passent par la porte sont sauvés, sont les brebis. Parce qu'on est revêtu de la grâce du Christ. On est revêtu de son sang. Et donc, c'est dans la plénitude de la grâce du Christ qu'on passe de la terre au ciel. C'est sûr. C'est dans la plénitude de la grâce du Christ. On a cette liberté complète. Il ira et viendra et trouvera pâture. La pâture dernière, ben, c'est la vision béatifique. C'est bien évident. C'est là où on aura la plénitude. On aura le point de vue ultime. Si quelqu'un hâte par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra. Il trouvera pâture. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et périr. Il y a donc, dans ce mystère de la porte, un mystère de discernement. On juge les brebis et les boucs. On juge les brebis et les voleurs et les brigands. Donc c'est bien le jugement dernier. Le jugement dernier, le jugement particulier pour chacun d'entre nous, et le jugement dernier aussi. Tout ça est impliqué, je crois, dans le mystère de la porte. Puisque ce n'est pas nous qui faisons le discernement, mais il est affirmé. Alors je crois qu'il y a là quelque chose d'ultime, vous voyez. Ce n'est pas étonnant, du reste. Parce que, quand vous essayez de comprendre ces deux affirmations, le pain et la porte, je vous disais la dernière fois que les deux conditionnements de la vie humaine, c'est d'avoir le pain et le logis, l'habitat et la nourriture. Et d'une certaine manière, la nourriture est plus proche du vivant et l'habitat est plus loin. L'habitat est caractéristique pour l'homme. Les animaux doivent manger, l'homme doit manger. Mais pourquoi l'homme doit avoir un habitat alors que le loup, le lion, ben, ils sont adaptés à la nature, ils ont leur fourrure, hein, tandis que l'homme ne l'a pas. Les petites constatations que Platon fait. Et il montre que par là, l'homme est dépendant de l'art. Et nous sommes obligés de dépendre. Ce qui montre que c'est plus proche de l'homme et du conditionnement humain. C'est la porte qui touche le plus le conditionnement humain. Donc, qui touche le plus la pauvreté de l'homme. Puisque c'est du côté du conditionnement qu'on touche la pauvreté, c'est pas du côté de la finalité. L'homme est obligé de manger comme les autres animaux. Et ils mangent comme les autres animaux. Je sais bien que pour nous, il y a la cuisine. Les animaux n'ont pas besoin de cuisine. Alors là, mais c'est pour ça que Jésus dit qu'il est le pain. Il ne dit pas qu'il est l'herbe. Il ne dit pas qu'il est... Non, il prend le pain. Parce que par le pain, il y a quand même l'art qui a passé. C'est pas de l'homme et de la nature. Mais où l'homme se distingue le plus de l'animal, c'est l'habitat. Ça, c'est sûr. Les animaux, ils ont leur maison. Ils la secrètent naturellement. Regardez une tortue. C'est l'animal qui secrète le mieux sa maison. Et d'une façon la plus extraordinaire, parce qu'on peut marcher dessus, ça tient. Et les orages et tout ça, c'est extraordinaire. Les animaux secrètent leur habitat. Ils secrètent leur porte naturellement, pas l'homme. L'homme ne secrète pas naturellement son habitat. C'est donc le conditionnement de la plus grande pauvreté de ne pas avoir d'habitat. Je crois. Mais vous pouvez vivre quelques jours sans vous nourrir. Je sais bien qu'on peut vivre quelques temps sans habitat. C'est sûr, mais ça dépend dans quel pays. Il y a des pays, quand vous passez une nuit sans habitat, vous êtes grillé. Ou je l'ai. N'est-ce pas ? C'est une autre manière d'être grillé. Alors, je crois que nous sommes là en face du symbolisme le plus grossier qui doit exprimer quelque chose de plus ultime. Quand je dis ça, faisons attention. Toute grâce chrétienne, semence de gloire, c'est-à-dire que toute grâce chrétienne est un appel vers la grâce de persévérance finale. Toute grâce chrétienne est liée à la grâce de la persévérance finale. Donc, le mystère de la porte, c'est pas seulement au moment de la mort. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on aura l'expérience parfaite. Je suis pas encore passé par là, je peux pas vous le dire. Mais si j'étais passé par là, et que je pouvais revenir, je vous dirais, c'est ça la porte. Je crois qu'on aura l'expérience de ce que c'est que Jésus comme porte à ce moment-là. Au très grand sens. Parce qu'on aura cette liberté totale. Vous voyez, ici on est ligoté complètement. Tandis qu'au moment de la mort, et au moment où Jésus sera pour nous porte, on aura cette expérience étonnante de la liberté divine. D'un amour libre, vous voyez ce que Cachetan dit en commentant saint Thomas, quand il dit que la grâce, tant qu'on est sur la terre, à cause de la foi et de l'espérance, est ligotée. Notre amour ne peut pas s'épanouir avec une liberté totale, parce qu'on est conditionné par la foi et l'espérance. Et c'est vrai, un amour qui se réalise dans la totale obscurité de la foi, un amour qui se réalise dans la difficulté de toutes les luttes. Cet amour ne peut pas être parfaitement libre. Quand les luttes seront finies et qu'on sera dans la victoire, parce que c'est ça l'éternité, c'est de vivre cette victoire, c'est pour ça qu'on a la robe blanche. Mais toute grâce chrétienne, et la première grâce chrétienne, est liée à la grâce de persévérance finale. De sorte qu'on peut dire que déjà, dès la terre, maintenant, nous avons l'expérience de Jésus comme porte. La grâce nous libère de tous les conditionnements. Même si cette libération n'est pas totale et que nous restons encore conditionnés par la foi, dans la foi et l'espérance, cependant la grâce nous libère. C'est ça le symbolisme de la porte. Par sa grâce, Jésus nous libère. Il nous libère et il nous revêt. On est revêtu du Christ. On est revêtu du Christ par la grâce. Alors, vous voyez, l'erreur de Luther, c'est de ne voir que le revêtement. On est revêtu parce que la grâce nous transforme du dedans. Mais on est quand même toujours revêtu. Et c'est vrai. C'est quelque chose d'extérieur à nous, la grâce. Et le symbolisme de la porte montre que c'est quelque chose. chose d'extérieur. C'est à la fois ce qu'il y a de plus intérieur et en même temps de plus transcendant. On est dans la transcendance. Et verticale, celle-là. Puisque c'est la transcendance du Christ qui est en même temps la plus immanente, donc la plus horizontale. C'est vrai que la grâce est ce qu'il y a de plus intérieur à nous. Et en même temps, la grâce nous donne l'expérience du plus grand dépassement qui soit. De sorte que déjà, dès cette terre, nous avons cette expérience. Et l'expérience de la porte, c'est l'expérience que la grâce reste toujours quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus, qui, par le fait même, nous blesse toujours un peu. Il faut passer par la porte. Ça paraît, hein, passer par la porte, surtout quand la porte est étroite. Voilà, l'exemple de la porte, elle est étroite. Il faut passer par la porte étroite. Et la porte très étroite. Hein. Et le chameau ne peut pas y passer. Le trou d'une aiguille. Ouh là 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 là. Et donc, il faut la petitesse. Il faut la pauvreté pour passer dans... À vous retrouver la pauvreté, la porte. Pour pouvoir passer par cette porte étroite qui est le Christ. Ceci nous fait comprendre que le mystère de la grâce n'est jamais, tant qu'on est sur la terre, n'est jamais quelque chose qui nous est totalement familier. Quand vous recherchez un milieu de vie religieuse, de vie chrétienne, qui vous soit totalement familier, c'est un retour au paradis terrestre. Et donc c'est un messianisme temporel. C'est un rêve, pas plus que ça. Et donc c'est faux, et c'est quelque chose qui vous arrête. On n'est jamais entièrement familier dans un milieu chrétien. Et alors, parce qu'on n'est jamais entièrement familier dans ce milieu chrétien, et qu'on ne le reconnaît pas, on accuse les autres. Que voulez-vous, je suis avec des imbéciles. Ils se disent chrétiens, mais ils sont des imbéciles. Je suis avec des religieux, mais ils sont tous des imbéciles, ils ne comprennent rien du tout. Et à cause d'eux, je suis dans un milieu qui, c'est très curieux, parce qu'on ne reconnaît pas que la grâce nous dépasse, c'est la porte. Et il faut passer par la porte. On n'est pas un animal sauvage. La grâce ne fait pas de nous des animaux sauvages. On a un berger. Et donc on a un nom. Et donc on n'a pas cette liberté qu'on rêve, la liberté de la spiritualité des arbres avant. La vie religieuse, c'est la porte. Alors là, on comprend les degrés d'humilité Saint-Benoît. C'est la porte. Et les degrés d'humilité Saint-Benoît nous font comprendre la dimension de la porte. Il faut passer par là, porte étroite. Si on ne passe pas par là, on est voleur et brigand. Oui. Si de temps en temps, on est en face de certaines récriminations de quelqu'un qui dise, mais oui, ça va pas, on est une espèce de voleur et de brigand. Voilà ce qu'on devrait dire dans le langage évangélique. Parce que tu ne veux pas être taillé. Tu ne veux pas passer par la porte. Et pour passer par la porte, qui est le Christ, il faut accepter la taille du Père. Les degrés d'humilité. Autrement, voleur et brigand. Je crois que ça va très loin, voyez. C'est très très secret, ce langage de Jésus. Et c'est très beau que celui qui comprenne, comprenne. C'est pour ça qu'il dit « Je suis la porte ». Il ne donne pas beaucoup d'explications. Même aux apôtres, il ne donne pas beaucoup d'explications. Il veut que nous découvrions ce symbolisme si grossier de la porte. Alors vous pourrez dire que la porte, puisque la porte est normalement de bois, la porte, c'est la croix. C'est Jésus dans un état victimal d'amour La porte étroite sera donc la blessure du cœur. Je crois que tout ça est lié à ce symbolisme fondamental de la porte. Alors, il faut essayer de saisir ça, voyez, à travers ce langage symbolique et divin. Comprendre qu'il y a là quelque chose de très radical et très profond pour nous. Alors vous allez me dire, quel est le lien avec le sacerdoce du Christ ? Oui, c'est que le sacerdoce du Christ implique en premier lieu le mystère victimal du Christ. Le Christ ne serait pas prêtre s'il n'était pas victime. Il ne serait pas prêtre s'il n'était pas victime. C'est pour ça que c'est le premier. Causalité finale qui commande la causalité viciante. Et pour nous, nous ne sommes prêtres que si nous sommes victimes. Si on n'est pas victime, on fait du blabla. Si on n'est pas dans un état victimal, si on ne va pas jusque-là, on peut s'agiter, on peut brasser des affaires, mais on n'est pas prêtre. Ce n'est plus la médiation sacerdotale. La médiation sacerdotale passe par l'état victimal. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Et Jésus dit ça aux Grecs, juste avant la croix. Et là, il définit ce que c'est son sacerdoce. Et ici, il nous montre le fondement de son sacerdoce, qui est d'être porte. Alors, pour être porte, il faut être avec Jésus, crucifié. Alors, on devient la porte de nos frères. Mais le sacerdoce mystique des fidèles, c'est l'état victimal des fidèles. Tout fidèle ne vit du sacerdoce que s'il est dans cet état victimal. Ah, voyez la revendication des femmes pour le sacerdoce, hein, comme c'est contradictoire in terminis. Revendiquer le sacerdoce du Christ. Or, vous n'êtes prêtre que dans la mesure où vous êtes victime. Et la revendication, c'est juste l'inverse de la victime. C'est contradictoire. Parce que la victime, c'est elle se tait. Et la revendication, c'est celui qui s'oppose à cet état victimal. C'est pour ça que c'est si important de comprendre ce symbolisme de la porte. Là, on touche, oui, on touche très profondément ce qu'est le sacerdoce du Christ. Cette médiation sacerdotale est premièrement une médiation victimale. Et on comprend pourquoi saint Thomas distingue sacerdoce et médiation. Pour montrer que par le sacerdoce de Jésus, l'aspect victimal est premier, condition sine qua non pour être médiateur au niveau sacerdotal. Tandis que la médiation comme telle ne le réclame pas, mais la médiation sacerdotale le réclame. Alors voyons l'autre aspect, plus facile pour nous de comprendre, le berger, parce que cela, c'est dit. Et on ne chante pas tellement « Je suis la porte », hein, on dit « Je suis le berger, je suis le bon pasteur », ça se dit tout le temps. Mais « Je suis la porte », non. Ah, il est porte dans le sépulcre, aspect victimal de Jésus. L'église des catacombes, c'est l'aspect victimal. C'est ça qui est le mystère fondamental du sacerdoce de Jésus. Alors voyons l'autre aspect qui est important. Moi je suis le berger, le bon berger. Le bon berger livre sa vie pour les brebis. Ah, voyez, le bon berger doit être porte. Et c'est tout de suite le lien entre les deux. Pour être porte, il faut livrer sa vie. Parce qu'il faut la donner aux autres. Il faut être source de vie. Or, pour être source de vie, il faut livrer sa vie. Puisqu'on n'est cause instrumentale de la grâce. On n'est pas cause propre de la grâce. Si on est cause instrumentale de la grâce, il faut se mettre dans la disposition de communiquer la grâce. Et donc offrir sa vie pour communiquer la vie divine. Moi, je suis le berger. Le berger, le bon berger, livre sa vie pour les brebis. Le mercenaire, celui qui n'est pas berger, à qui n'appartient pas les brebis. Alors voilà la définition du mercenaire et donc il nous aide à comprendre le bon berger. Le bon berger, les brebis lui appartiennent. Tandis que le mercenaire, c'est la première chose qu'il a montrée. Le bon berger, c'est celui qui livre sa vie. Donc par là, Jésus montre le lien entre le berger et la porte. Hein ? Il y a le lien entre les deux. C'est pas deux choses différentes. On passe l'un à l'autre. Le bon berger livre sa vie pour les brebis. Ensuite, le caractère propre du berger, qui n'est pas le caractère de la porte, qui n'est pas le caractère de l'état victimal du Christ, c'est que les brebis appartiennent au bon pasteur. Le mercenaire, celui qui n'est pas berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup. Il laisse là les brebis et s'enfuit. Et le loup les emporte et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et n'a point souci des brebis. Le bon pasteur, c'est celui à qui les brebis appartiennent. Oui, alors là, on rejoint tout le symbolisme du corps mystique. Nous sommes le corps du Christ. L'avoir le plus fondamental et substantiel, c'est le corps. C'est notre avoir. Vous ne pouvez pas avoir un avoir plus intime, plus individuel, un avoir plus substantiel que votre corps. C'est une des raisons pour laquelle Dieu a voulu que ces petits benjamins soient esprits liés au corps. Parce que les anges n'ont pas le même avoir. Nous avons, nous, un avoir substantiel. Les anges n'ont qu'un avoir intentionnel. Et ça change tout ça. Nous avons un avoir substantiel. On peut offrir sa vie. Et en offrant sa vie, on offre son avoir substantiel. Lorsque nous adorons, à la différence des anges, nous offrons notre avoir substantiel. Adorer, c'est offrir sa vie. Et donc, sa vie temporelle. C'est donc brûler notre avoir substantiel. Et considérer que notre avoir substantiel, il est pour Dieu, il est pour la gloire du Père. Tandis que les anges ne peuvent pas faire ça. Et l'adoration propre à l'homme, c'est d'offrir son corps d'un aspect victimal pour glorifier. C'est la graisse des boucs. Et des brebis. Et il est dit que Dieu se réjouit hein, que cette graisse soit brûlée. Pour les anges, ça signifie pas grand-chose, vous savez ça. Tandis que pour nous, ça signifie quelque chose. On s'aperçoit bien ce que c'est. Donc, nous sommes l'avoir du Christ. Être brebis du Christ, c'est considérer que nous sommes l'avoir du Christ, nous sommes son corps. Nous sommes liés substantiellement au Christ. Nous sommes ses membres. Nous sommes les sarments. On est enracinés en lui. pasteur et ses brebis. On dirait un lien substantiel, donc ontologique, qui va très loin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est vital. Mais comme pour l'homme, vivre, c'est être, on peut dire qu'il y a là un lien qui touche à cet avoir substantiel. C'est très grand, ça, de voir qu'on est l'avoir du Christ, qu'on lui appartient. Et parce qu'on lui appartient, le bon pasteur a ce souci de ses brebis. Comme l'époux a souci de son épouse, qui est son corps. C'est jamais entièrement vrai au point de vue humain, mais c'est vrai au point de vue divin. Moi, je suis le berger, le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Connaissance affective, aimante, qui s'enracine dans cet avoir. Ce qu'on disait tout à l'heure, la connaissance du corps, soma. Vous voyez, c'est... Nous avons, chacun d'entre nous, une connaissance de notre corps, de l'intérieur. Les autres nous voient de l'extérieur. Tandis que nous avons, nous, une connaissance propre de notre corps, parce que c'est notre avoir substantiel. Donc nous nous connaissons d'une façon tout à fait autre que ceux qui connaissent de l'extérieur. Jésus nous connaît de cette connaissance. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Une connaissance plus intérieure et plus intime. Une connaissance affective qui va plus loin, qui repose sur cet avoir, parce que nous, nous lui appartenons comme son propre corps, parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes ses brebis. Il a un souci de nous qui dépasse toute connaissance affective. Et l'analogie de l'époux et de l'épouse qu'on retrouve ici, mais justement d'une autre manière, pour qu'on dépasse le mystère de l'analogie, pour découvrir le mystère substantiel. Parce que l'épouse n'est jamais totalement le corps de l'époux. Ontologiquement, non. Affectivement, oui. Si l'époux est un véritable époux. Mais si l'époux n'est pas un véritable époux, il n'aime pas son épouse comme son propre corps. C'est le grand secret, ça, de toute la théologie du mariage et de toutes les exigences du mariage. C'est ça qui nous est montré. Et c'est l'épître aux Éphésiens. Il faut que l'époux aime son épouse comme son propre corps. Donc avec le respect qu'on a pour son propre corps. On ne peut pas le mutiler. On ne peut pas le violenter. On le respecte. Mais connaissance affective d'un avoir substantiel, au point de vue humain, c'est jamais totalement réalisé. La réalisation plénière, c'est le Christ et chacun d'entre nous. Et c'est ça le bon berger. Connaît ses brebis, parce que ses brebis sont son avoir substantiel. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors, connaissance réciproque, parce que connaissance affective. Dans la connaissance affective, l'objectivité et la subjectivité sont dépassées. Vous le savez bien, c'est le propre de la connaissance affective. C'est que la distinction de subjectivité et objectivité est dépassée, puisque c'est par l'amour qu'on connaît l'autre. Donc c'est par la subjectivité qu'on devient objectif. Et c'est dans la plus grande subjectivité qu'on est le plus objectif. Et c'est le terme propre du mot connaissance dans la Bible. C'est de montrer la transcendance de la distinction de l'objectivité et de la subjectivité. Et c'est dit ici explicitement. Moi, je suis devant. Bon, les brebis me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est très important ça. L'intersubjectivité, elle n'est vraie qu'à ce niveau-là. C'est une intersubjectivité. Le Christ nous connaît dans la mesure où nous désirons que Jésus nous connaisse. Ça va très loin, ça. Parce que dans la mesure où vous avez une mauvaise volonté, le Christ ne peut pas vous connaître totalement. Dans la mesure où vous l'êtes translucide au Christ par l'amour, il peut vous connaître parfaitement. Et c'est dans la mesure où Jésus vous connaît que vous connaissez Jésus. Et donc c'est nous qui mesurons la connaissance du Christ sur nous. Cette trans, cette intersubjectivité, c'est très important. C'est dit ici. Hein. Et ça fait comprendre ce que c'est que le bon berger. Le bon berger n'est bon berger que parce que les brebis lui appartiennent. Et par la connaissance qu'il a du fait même que les brebis lui appartiennent. Comme le Père me connaît, et moi je connais le Père, et Jésus nous montre bien, pour connaître cette intersubjectivité, il faut dépasser toute expérience humaine, il faut regarder le mystère de la très sainte Trinité. Voyez, l'erreur de la phénoménologie, c'est de croire qu'au point de vue humain, on a une intersubjectivité parfaite. L'intersubjectivité n'est vraie que dans la très sainte Trinité. Et donc c'est une laïcisation de la très sainte Trinité. L'intersubjectivité, c'est ça. L'intersubjectivité n'est vraie qu'entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Alors là, vous avez la transcendance absolue de l'objectivité et la subjectivité. Le Père est totalement donné et le Fils est totalement donné. Et Jésus le dit bien, comme le Père me connaît, comme moi je connais le Père. Donc c'est dans ce don mutuel qu'il y a cette lumière et cette lumière profonde du Père et du Fils. Mais comme ça va loin, le mystère du sacerdoce de Jésus. Le mystère du sacerdoce de Jésus ne peut se comprendre que dans la lumière de la très sainte Trinité. Quand il s'agit de la connaissance de Jésus comme bon berger vis-à-vis de nous, si vous ne regardez pas le mystère de la très sainte Trinité, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est le sacerdoce de Jésus. Voyez, tout sacerdoce doit donc être contemplatif. Mystère de la très sainte Trinité. Autrement, il n'est plus un sacerdoce chrétien. Et ceci, c'est directement dans l'Écriture. Hein. Ne dites pas que c'est une conception monastique du sacerdoce. Hein. C'est une conception divine du sacerdoce, telle qu'elle est montrée dans l'Évangile de Saint Jean. Ça, c'est vrai. Telle qu'elle est montrée dans l'Évangile de Saint Jean. Comme le Père me connaît et que moi je connais le Père, et je livre ma vie pour mes brebis. De nouveau, le lien entre le bon pasteur et la porte. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Alors là, c'est aussi très grand. C'est que ce sacerdoce, enraciné dans l'état victimal, le mystère du bon pasteur, enraciné, parce que l'état victimal fait partie du sacerdoce, donc il est le fondement de l'exercice du sacerdoce du Christ, et qui s'exprime par le bon pasteur, a quelque chose de catholique, d'universel. Il est sans limite. Il regarde tous les hommes, sans exception. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Vous voyez, l'éclatement du sacerdoce du Christ comparativement à la conception cet éclatement. Il faut voir le contexte dans lequel Jésus a dit ça. Alors là, ça prend une force étonnante. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Et elles écouteront ma voix. Il y aura alors un seul troupeau, un seul berger. Voilà la nostalgie du cœur de Jésus, si j'ose dire. C'est pas une nostalgie, c'est l'intention profonde du bon pasteur. Voyez bien que l'œcuménisme et l'aspect missionnaire est essentiel à la vie du prêtre. Un prêtre qui n'a pas le sens missionnaire n'est pas prêtre selon le cœur de Jésus. Et ceci, c'est vrai du prêtre ministériel et c'est vrai du sacerdoce royal des fidèles. Le sacerdoce royal des fidèles implique cet aspect missionnaire. Mais ça, c'est la brisure hein, de tout ce qu'il peut y avoir de vieux garçons et de vieilles filles. Ça, c'est pas sacerdotal. Oui, l'esprit casanier, vous savez. On est bien ici. Dressons trois tentes. On est tellement bien. Alors on veut rester. Et ça, c'est juste inverse. Il y a d'autres brebis. On peut jamais rester. Il y a toujours quelque chose de plus. On doit toujours aller plus loin. C'est le dépassement constant. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas ce bercail. Celles-là aussi,